France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment penser la transition écologique ? Dans la revue Nature du 5 octobre 2023, des chercheurs de différentes disciplines ont entremêlé leurs connaissances dans le but de déterminer ce que sera le futur à très long terme de la Terre. Leur conclusion est que dans 250 millions d'années, les continents auront dérivé au point de finir par se percuter les uns les autres. Il n'y aura donc plus sur Terre qu'un seul gros bloc, la Pangéa Ultima. Cette évolution sera certes lente, mais pas tranquille du tout. En se rapprochant jusqu'à s'interpénétrer, les continents déclencheront à leur bord une intense activité volcanique qui libérera d'énormes quantités de gaz à effet de serre. En conséquence, le climat terrestre se réchauffera drastiquement, d'autant plus que le Soleil verra l'intensité de son activité augmenter de 2,5%. Et pour ne rien arranger, l'existence d'un seul supercontinent au lieu de plusieurs provoquera la formation d'immenses déserts sur lesquels aucune pluie ne tombera plus jamais. En clair, et pour reprendre la célèbre phrase de l'économiste John Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Au passage, ce résultat vient nous donner une leçon de modestie, en faisant voir que le futur très lointain de la Terre ne dépend nullement de nos actions humaines, que celles-ci soient passées, présentes ou futures. Toutes les traces de notre présence auront fini par disparaître de sa surface. En somme, la Pangéa Ultima symbolise à la fois l'écrasement total de la politique et l'effacement complet des effets de notre présence sur Terre. Dans l'étude de Nature que je viens de citer, l'activité humaine ne fait pas partie de l'équation. Ne s'y trouve convoquée que l'historicité intrinsèque du système Terre, qui a débuté bien avant l'apparition du genre Homo et se prolongera bien après lui. Reste que ce qui vaut là pour le futur à long terme ne vaut pas du tout pour le futur à court terme. Lui va dépendre de nous et nous le savons. Ce qui va se passer durant les prochaines décennies sera en partie déterminé par ce que nous allons faire sur notre Terre. Il convient d'y réfléchir car en la matière, les projections sont inquiétantes, qu'elles concernent le changement climatique, la diminution des espèces de vie, la raréfaction des ressources, l'effondrement de la biodiversité, la pollution des sols, de l'air, de l'eau ou encore la déforestation. Dès lors, comment penser philosophiquement la transition qu'il convient d'effectuer ? Pour le savoir, le mieux est d'en parler avec des philosophes. Et ça tombe bien, j'en ai deux en face de moi. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Étienne.
Vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et vous venez de publier « Leçons des limites planétaires » aux éditions Actes Sud. Et puis Sophie Swatton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également philosophe, mais en plus économiste. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Lausanne, comme Dominique Bourg. Vous avez d'ailleurs écrit ensemble en 2021 un livre intitulé « Primauté du vivant, essai sur le pensable » paru aux éditions PUF. Et vous êtes l'auteur, vous toute seule, Sophie Swatton, d'un livre qui vient de paraître chez Actes Sud qui s'intitule « L'œil du jaguar ». J'ai une question à vous poser à tous les deux, l'un après l'autre, dans l'ordre que vous choisirez. Comment est-ce que vous imaginez Lausanne en 2100 ? Dominique Bourg, vous avez l'air d'être plus réactif.
Lausanne en 2100, c'est justement pas, on n'est pas sur les côtes atlantiques françaises, on est déjà un petit peu loin, un peu plus loin sur le continent. Et dans pas mal de modèles, on est sur la zone verte, c'est-à-dire la zone qui est encore assez favorable à la vie. Je dis bien encore assez favorable à la vie. Maintenant, effectivement, si on a quand même une augmentation de 3 degrés, entre 2, 5 et 3 degrés, d'ici à la fin du siècle, ce qui est quelque chose de malheureusement tout à fait probable en moyenne, ça donne le double, même un peu plus en montagne. Donc là, on commence à être quand même dans des difficultés pour le vivant qui ne sont pas simples. Donc je dirais que Lausanne en 2100, on ne rigole pas tous les jours.
Et vous, Sophie Swatton, vous partagez cette absence d'impatience de Dominique Bourg?
Alors j'ai un petit peu contrebalancé, comme d'habitude aussi. Je dirais que oui, mais on s'est rendu compte en 2100 qu'il fallait justement, depuis des décennies compliquées, on n'a pas effectivement toujours rigolé, réintroduire le vivant. Et donc le flon a à nouveau ressurgi dans la ville de Lausanne. On fait des réunions, on encourage un nouveau rapport au vivant, on a débétonné la ville, l'eau jaillit un petit peu de partout, on la protège, on respecte aussi au niveau juridique certaines formes d'entités dont on pensait qu'elles étaient sans finitude il y a quelques années, et donc des métiers ont disparu, des bâtiments ont disparu aussi, et on vit peut-être plus solidairement et plus en coopération avec des innovations également sociétales.
Bien, alors je propose qu'on organise notre discussion en commençant par discuter le livre que Dominique Bourg vient de publier, « Leçons des limites planétaires ». Évidemment, Sophie Swatton, vous pourrez intervenir à n'importe quel moment, mais j'aimerais bien qu'on discute cette notion de limite planétaire. Il y en a 9 qui ont été identifiées, 6 qui sont considérées
aujourd'hui. 7 maintenant.
7 depuis la semaine dernière?
Non, pas depuis la semaine dernière. Enfin,
c'est dépassées.
La transition de la 7e limite, enfin le dépassement de la 7e limite avait été annoncé à Nice au moment du sommet sur les océans. Elle concerne l'acidification des océans. Donc c'est vraiment une conséquence directe du changement de la composition chimique de l'atmosphère. Et le papier de référence est sorti, je crois, en septembre. Donc en fait, il ne reste que 2 limites à ne pas avoir été transgressées.
Est-ce qu'on peut dire lesquelles ?
Oui, tout à fait. Alors l'une, c'est curieux d'ailleurs qu'il l'ait intégrée, elle concerne les aérosols. Donc, alors, les airs dans le sud, les aérosols, nous, avec le sommet de Stockholm en 72, on a commencé vraiment à mettre sur pied des politiques de filtration, des cheminées d'usines, etc. Et on a réduit ces aérosols. Pour l'agriculture, on n'a pas les mêmes problèmes. Les aérosols dans le sud, c'est à la fois une conséquence de certaines activités agricoles et d'activités industrielles. Ça a des effets non négligeables sur les moussons, ça a des effets sur la réduction de la quantité d'énergie solaire qui arrive au sol, mais ces effets sont par définition locaux, puisque dans le Nord, les choses ont changé depuis maintenant plus de 5 décennies, et en même temps, il y a des efforts de politique publique pour réduire, parce que les aspects sanitaires notamment ne sont pas négligeables. Donc en fait, on aurait pu ne pas intégrer cette limite, parce que on savait qu'elle ne serait pas du tout transgressée à une échelle globale. Et puis l'autre limite, elle concerne l'ozone stratosphérique. Là, c'est la seule victoire en plus de 50 ans des écologistes, avec le protocole de Montréal qui, si je ne m'abuse, avait été, je pense, signé en 89, qui concernait les gaz justement qui détruisent l'ozone dans les hautes couches de l'atmosphère. Et c'est la seule mesure qui a eu un effet planétaire et un effet très positif. Alors, il faudrait attendre des décennies pour qu'éventuellement on reconnaisse à nouveau le problème, par exemple avec une multiplication complètement folle du trafic aérien. Mais à mon avis, on aura d'autres difficultés.
Ça démontre que certaines dynamiques sont réversibles, du coup.
Oui, alors elles sont réversibles. Non, on a arrêté en fait avant que ça ne devienne trop dangereux l'accumulation, donc par exemple des CFC, des gaz qui étaient destructeurs de l'ozone dans les hautes couches de l'atmosphère. Donc on peut pas vraiment. On a arrêté la dynamique de transgression. Mais ensuite, après, il y a toujours un temps pour revenir à un état normal. Si on prend le CO2, on n'y reviendra jamais. D'après certains travaux, il y aura à peu près toujours, même dans un temps assez long, de plusieurs milliers d'années. Alors, on n'est pas aux 250 millions d'années, mais il restera à peu près, au bout de 10 000 ans, reste à peu près 10% du surcroît de gaz à effet de serre qu'on aura émis.
Alors, Dominique, bon, parlons des limites qui ont été franchies. Oui. Alors, il faut interroger le concept de limite dès lors qu'il peut être franchi.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, comment est-ce qu'on a choisi, qui a choisi d'ailleurs, d'identifier ces limites, à partir de quels critères ?
Le problème d'une limite, c'est quand même de pouvoir être transgressé.
Ah bon ? J'aurais dit le contraire, moi.
Alors, ça dépend dans quel domaine. Mais il y a beaucoup de limites, les limites morales, par exemple. En termes de société, très souvent, par définition, tout ce qui va concerner le droit, tout ce qui va concerner la morale, c'est pas la physique, mon cher Étienne. Et donc là...
Même les limites ont des bornes.
Non seulement elles ont des bornes, mais même on peut aller au-delà des bornes. Mais simplement, lorsqu'on va au-delà des bornes, ça se voit et ça se sent. Et les effets sont très importants. Donc, c'est en ce sens-là qu'il faut concevoir limite. Il faut bien distinguer limite de loi. Évidemment, une loi, par définition, on ne la transgresse pas, on ne sait même pas nécessairement qu'on s'y conforme. Et donc, effectivement, les limites peuvent être transgressées, et ça veut simplement dire qu'au-delà des lois, il y a un niveau supérieur de construction, en interaction avec les lois fondamentales et la vie, et là, il peut y avoir des états différents, et les limites planétaires, enfin, rester à l'intérieur des limites planétaires, la période de référence était l'Holocène, parce que, effectivement, c'est une forme d'équilibre qui a duré au moins 11 700 ans, et qui a été extrêmement favorable à l'épanouissement des sociétés, des civilisations, et notamment à l'éclosion et au développement sur des milliers d'années de l'agriculture, qui a permis ensuite, après, l'intensification de la division du travail et la construction des
Alors prenons la première limite, on va les réciter en quelque sorte dans l'ordre, le taux d'érosion de la biodiversité, on a franchi la limite là.
Alors, non, c'est compliqué. On a franchi la limite, c'est tout à fait juste. Mais disons, on est très très loin d'un effondrement comme on a connu avec les 5 extinctions qui nous ont précédés. Là, ça serait au moins 75% des espèces vivantes qui disparaîtraient. Alors, elles ne disparaissent pas du jour au lendemain. En général, c'est au moins sur un million d'années. Là, on est à quelques pourcents. Simplement, on est sur une dynamique, c'est-à-dire on est sur un rythme d'accélération de la disparition des espèces qui n'a plus rien à voir avec le rythme historique, alors au sens géologique, au très long cours.
Ensuite, le taux de CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Alors ça, c'est ce que tout le monde connaît le mieux, hein. C'est les conséquences de l'usage de l'énergie.
Le troisième, c'est les flux d'azote et de phosphore, dus notamment à l'agro-industrie.
Oui, alors ça, c'est directement lié à l'agro-industrie. Et là, on a affaire à une transgression qui est vraiment énorme, hein. Je crois que les flux d'azote sont 4 fois, avec les engrais azotés, ils sont 4 fois ce qu'ils seraient sans ces activités agricoles humaines. Donc c'est vraiment une transgression énorme.
Et quels sont les effets que ça produit à long terme?
Alors, il y a des effets d'eutrophisation, etc., mais on ne les sait pas forcément jusqu'au bout, ces effets.
Quatrième limite, l'usage des sols avec la déforestation.
Notamment la déforestation. Alors, et effectivement, elle est très paradoxale, la déforestation, hein, parce que l'hémisphère nord, au sens politique, il y a au contraire, depuis la fin du 19e, il y a un effort de reforestation vraiment important. En ce moment, c'est en Chine. La Chine a pratiqué un effort de reforestation énorme, mais de manière générale, par rapport au sud politique, on a là, au contraire, une disparition très rapide des forêts. Ça continue même en Amazonie.
Cinquième limite, Dominique Bourg, l'accumulation au sein de la biosphère d'entités qui lui sont étrangères.
Oui, alors ça peut être les radionucléides, ça peut être, je ne sais pas moi, du cadmium, puisqu'on a parlé de ça avec l'agriculture, ça peut être les PFAS, ça peut être les polymères, etc.
Les plastiques.
C'est-à-dire toutes sortes d'entités que la nature, au mieux, s'est fragmentée, mais pas ramenée à une échelle atomique de telle sorte qu'elle soit recyclée dans les grands flux de la nature.
Enfin, la disponibilité réduite des eaux bleues.
Eau bleue, c'est celle qui circule, c'est l'eau douce qui circule sur Terre. Les eaux vertes, c'est la capacité des sols à retenir l'eau. Et là, probablement, il faudra demander à un hydrogéologue, mais vu le type d'exploitation qu'on a eu, notamment des nappes fossiles, etc., je pense qu'il y a une partie de l'eau douce qui était disponible pour la vie, qu'on a fait partir dans les compartiments salins.
Alors, elles ont été dépassées. Vous dites que ces limites planétaires sont le PIB de l'écologie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire par là, c'est une espèce d'indicateur agrégé qui nous donne une idée assez précise et quand même relativement solide de l'état de la planète auquel nos activités et le développement démographique aussi de l'espèce ont conduit.
On a développé la CITEM, enfin 7 avec cette limite. Est-ce qu'elles sont interconnectées ou est-ce qu'on peut les penser indépendamment les unes des autres?
Non, elles sont vraiment interconnectées. Par exemple, si on prend l'acidification de l'océan, donc justement la 7e limite, c'est une conséquence directe de nos émissions de gaz à effet de serre et le fait que l'accumulation dans les océans qui capte à peu près la moitié, eh bien l'océan finit par s'acidifier et devient disons un obstacle à la vie, à la constitution du calcaire à partir duquel le vivant se construit. Voilà, là on a des choses qui sont vraiment très 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 gênantes.
Alors ces sujets, c'est des sujets dont on parle beaucoup. Est-ce que le fait d'invoquer une croissance verte, comme on dit, est la bonne solution? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce que c'est un terme qui vient masquer la gravité des problèmes en laissant penser qu'on pourra facilement les régler?
Oui, alors croissance verte, personne ne sait ce que ça veut dire. En tout cas, ce qui est clair, qu'est-ce qui détruit...
C'est énergie décarbonée, essentiellement.
Oui, mais alors on n'a pas qu'un problème d'énergie, on a un problème de vivant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre de manière générale, et on va le comprendre par exemple avec les forêts, c'est la vie à, comment dire, c'est elle qui rend la Terre plus facilement habitable et en lui permettant d'accueillir des espèces différentes. Si je prends par exemple l'Amazonie, on sait que l'Amazonie, donc la forêt amazonienne, on parlait tout à l'heure des forêts, ce sont les forêts qui permettent la pénétration, d'où l'histoire sur la Pangée, la pénétration au cœur des continents et de l'eau. Alors pour la forêt amazonienne, il y a 6 cycles successifs d'évapotranspiration. Lorsque les arbres restituent entre 50 et 60% des eaux de pluie qu'ils reçoivent. On a aussi appris que la photosynthèse produit aussi une eau nouvelle. Donc là, ça nous explique les rivières volantes qu'on a au-dessus de la canopée. Mais pour que ça retombe en pluie, il faut que ça condense. Et on a appris depuis peu de temps, depuis une quinzaine d'années, que ce sont, alors il n'y a pas que les arbres, mais notamment les arbres, et plus particulièrement certaines essences, qui vont produire des aérosols qui vont faire se condenser les nuages et les faire retomber en pluie. Si on regarde aussi, il n'y aurait pas de vie au sol s'il n'y avait pas de canopée, tellement l'énergie est énorme, l'énergie reçue à l'équateur est vraiment énorme, et c'est précisément, elle est absorbée par ce phénomène de photosynthèse, ça rend donc la vie possible, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est la vie qui autorise la vie d'une certaine manière. Et puis, en se développant et en permettant des formes plus diverses et très, très fines, d'existence. Donc si par exemple la forêt amazonienne disparaît, eh bien l'habitabilité de la Terre est extrêmement réduite. Mais ce que je viens de dire là pour la forêt, on pourrait le dire de l'ensemble. Et donc quand on détruit le vivant, on se détruit soi-même, puisque nous on fait partie de cet ensemble des espèces qui vivent dans l'état actuel de la biosphère.
On vous sent passionné, Dominique Bourg, vous connaissez bien l'écologie, les sciences de la vie. Qu'est-ce qui a amené le philosophe que vous étiez à se passionner pour ces questions ?
Eh bien, une des raisons, c'est que, si vous voulez, la philosophie a joué un rôle, alors la philosophie mêlée aux sciences, a joué un rôle déterminant dans la destruction de l'habitabilité de la planète. Parce que, en fait, et c'est ça la différence précisément avec la Pangée, l'exemple était vraiment intéressant, hein, puisque là, on est justement sur 250 millions d'années, et là, on s'aperçoit que même des mécanismes très importants, comme le fait, par exemple, que la création du calcaire, la sédimentation, ça a sans doute été un moteur de la dérive des continents. On voit même que finalement les mécanismes physiques qui sont derrière vont faire que la vie va quasiment disparaître. C'est-à-dire que si on a effectivement des éruptions volcaniques, alors on a eu ça à une période donnée dans le passé de la Terre, il n'y a plus qu'une vie bactérienne qui peut exister. En plus, effectivement, avec la Pangée, le mécanisme que j'indique, on ne va pas tellement comment il pourrait, à une telle échelle, fonctionner. Là, on a vraiment une perte d'habitabilité de la planète qui n'est en rien due à l'homme, ou même la vie elle-même semble ne jouer aucun rôle. En revanche, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vraiment l'humanité qui est le facteur essentiel de dégradation du vivant sur Terre, au point de fragiliser la vie sur Terre.
Je m'adresse à vous, Sophie Swadon, avant que de continuer la conversation avec Dominique Bourg. Vous êtes vous aussi philosophe. Est-ce que les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé à ces questions d'écologie, couplées à l'économie, sont les mêmes que pour lui, ou est-ce qu'il y a d'autres motivations ?
Alors, effectivement, elles sont plutôt dans le prolongement, parce que je m'intéressais plutôt, moi, à la justice sociale. Donc, ma formation, elle est plutôt rôlesienne, la question de comment on redistribue les ressources, les richesses, donc des questions à la frontière entre philosophie et économie. Et c'est Dominique qui m'a ouvert les yeux et formé sur la question écologique. Donc, de fait, je terminais dépressive, soit j'essaie de faire quelque chose de ce qu'on vient d'entendre, et je suis toujours médusée, j'écoute avec beaucoup de passion et d'intérêt. Et donc, grâce à Dominique, je me suis décidée, il m'a encouragée aussi, à poursuivre une réflexion en reliant la question sociale, depuis le 19e, l'économie sociale et solidaire, l'émergence de la pauvreté dans un monde qui bascule dans l'industrialisation, avec toute cette question sociale qui va animer différentes écoles de pensée, ce couplage en fait avec la question naturelle, hein, et d'essayer de comprendre la convergence entre le social et l'écologique. Donc c'est comme ça que cette rencontre aussi s'est faite de manière intellectuelle pour poursuivre une réflexion.
Alors continuons avec votre mentor, si j'ai bien compris, Dominique Bourg.
Sur l'écologie, je le suis complètement. J'essaie de construire sur une dévastation.
Vous tirez un certain nombre de leçons de ces limites planétaires, oui. Dominique Bourg. La première, c'est une leçon que vous qualifiez de quantitative. Et vous dites qu'en fait, sur Terre, on est trop nombreux, quoi. On fait trop de choses, on bouge trop, on consomme trop d'énergie.
Alors, on est trop nombreux, c'est très important. On est une espèce vivante. Et donc, ce qui caractérise toutes les espèces sur Terre, c'est une sorte de contrôle, les unes par les autres, de leur démographie. Or, justement, avec nos techniques, on échappe à cet autocontrôle de la vie sur elle-même et on peut connaître une évolution quantitative et démographique qui est vraiment très, très importante et ça ressort dans le papier, donc source que je suis censé commenter. C'est-à-dire qu'effectivement, l'humanité s'empare de largement plus de la moitié jusqu'à presque 70% de ce qu'on appelle la production primaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité s'accapare presque les deux tiers et les trois quarts de la production du vivant sur Terre. Donc on empiète tout simplement sur les autres et on fait disparaître les autres espèces. Je peux donner une autre indication. Si on prend la biomasse des vertébrés terrestres et si on compare les différents compartiments, les vertébrés sauvages, c'était 3% il y a 20 ans, c'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Un tiers de cette biomasse des vertébrés, ce sont les êtres humains et les deux autres tiers, ce sont nos animaux domestiques. Donc on voit là à quel point on empiète et on empêche le reste des vivants. Alors, ce disant, je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut tuer leurs voisins. Hein. Là, on assiste aujourd'hui, c'est d'ailleurs un phénomène très intéressant.
Merci d'avoir précisé.
Puis quand même, hein, on assiste à une espèce de décrue démographique qui est très étonnante. Hein, l'ONU prévoit que pour l'ensemble de l'humanité, on sera à 1,6 par femme, peut-être même un peu avant le mi-temps du siècle. Et si on regarde un pays comme la Corée du Sud, qui n'est pas du tout un pays, que sais-je, moins bizarre, c'est un pays tout à fait standard, et là, on est à 0,7 enfants par femme. Donc, il y a une décrue démographique extrêmement rapide, mais on va quand même avoir un moment donné où les deux courbes vont se croiser, et ça va être un peu compliqué.
Vous parlez dans ce chapitre sur la leçon quantitative que vous tirez du franchissement des limites. Vous parlez de la loi de Clausius-Clapeyron.
Oui,
alors ça me rappelle mes années de lycée. Est-ce que vous pouvez la...
Oui. Alors, je suis pas physicien, mais ce que j'ai compris, c'est une loi qui fait la relation entre l'augmentation de la température au sol et puis l'évolution de l'humidité relative de l'air. Et pour 1 degré de plus en moyenne au sol, on a 7% d'humidité relative de l'air en plus. Et chacun de nous peut en faire l'expérience parce que désormais, des pluies en quelques heures, c'est 120 mm qui tombent, c'est franchement un Karcher déjà. Alors ça peut être beaucoup plus. Hein. À Valence, il y a un an et demi, vous avez eu 762 mm en quelques heures et avec un relief montagneux à l'arrière-plan. Et la mer évidemment à l'aval. Donc c'est tout le monde constate, si vous voulez, le changement du régime des pluies. À ça s'ajoutent les effets du dérèglement qui font que non seulement il y a plus d'humidité, donc il y a une pluviosité plus grande, mais qui est encore plus inégalement distribuée qu'autrefois.
Mais le problème, c'est que quand on augmente la température, ce qui fait que nos corps se refroidissent, c'est pas le fait qu'on transpire, c'est le fait que notre transpiration s'évapore.
S'évapore. Alors ça, justement, ça, c'est la question de la chaleur humide.
Quand l'humidité est trop forte dans l'air qui nous entoure, cette évaporation ne se fait pas. Donc on peut courir des marathons au Maroc par 40 degrés si l'air est sec, mais en Indonésie, si l'air est très humide à 30 degrés, on peut pas courir.
Alors non seulement ça, mais alors on distingue la chaleur incompensable du moment où elle devient vraiment, à proprement parler, mortelle. Alors évidemment, c'est quand ce mécanisme que vous venez de rappeler, hein, qui fait que on régule notre température intérieure en maintenant la peau à 35 degrés, effectivement par un phénomène physique, c'est-à-dire la transformation de la sueur en vapeur d'eau va capter des calories. Et pour que ça marche, il faut que l'humidité relative de l'air soit en dessous de 60%. Dès qu'on atteint, alors même déjà 50%, on n'est pas très bien, mais 60%, ça devient vraiment difficile. On peut arriver jusqu'à saturation. Et quand ce mécanisme dysfonctionne totalement, en 5 ou 6 heures, si on n'a pas un lieu pour se réfugier, plus sec et moins chaud, on meurt. Tout simplement parce que la température intérieure monte d'un degré.
C'est pas une question de confort.
Non. Alors, c'est dans un premier temps, quand on dit incompensable, c'est-à-dire que et évidemment, vous allez avoir des difficultés, vous n'allez pas arriver à cet extrême, mais en fait, votre capacité à travailler en extérieur va énormément diminuer. Et puis nous autres, vous venez de le rappeler, nous on a cette capacité de pouvoir transpirer sur la totalité du corps. Donc on est en fait très bien adapté d'une certaine manière, mais un chien ou un chat, il va changer le rythme de sa respiration un petit peu avec les coussinets. Donc en général, si votre chien crève, faites gaffe, c'est que c'est pas bon pour vous après, hein.
Mais Dominique Bourg, si on prend les prédictions du GIEC pour les températures et l'humidité, et si on imagine que par exemple la population serait partie géographiquement comme elle est aujourd'hui, combien de personnes seraient concernées par ces conditions extrêmes en 2100 par exemple?
Alors en 2100, 3 degrés, c'est énorme le nombre de gens qui sont concernés. Alors en fait, là, la question de la chaleur humide, il faut bien distinguer les deux, hein, chaleur sèche et chaleur humide. Les effets sur l'habitabilité de la Terre ne sont pas les mêmes, ils se cumulent malheureusement. Et donc la chaleur humide, elle va concerner essentiellement les aires tropicales. On pourrait avoir un phénomène autour du Léman, mais ça va être très très rapide et archi-exceptionnel. Ça va concerner en revanche tout ce qui est air tropical sur les côtes. Ça va être quasi permanent et ça va aussi beaucoup affecter les contrées à mousson. Par exemple, le piémont himalayen, évidemment, c'est hyper peuplé. C'est une région du monde qui va être extrêmement affectée par la chaleur humide. Et quand on parle de chaleur humide, il faut bien savoir que ça touche pas que les êtres humains, ça touche les animaux. Il y a 2 ans, en mai, c'est parce que dans ces régions-là, c'est plutôt en mai que vous avez les pics de chaleur les plus importants. Dans une petite forêt du sud-est du Mexique, vous avez eu un phénomène de chaleur humide qui a amené, parce que c'est une forêt dont toutes les espèces sont monitorées, qui a amené la mort d'un tiers des singes hurleurs, à peu près 300, qui sont morts en quelques heures, et ils tombaient rennes morts. Et quand on les analysait, effectivement, quand on les prenait tout de suite, en quelque sorte, c'était vraiment un problème de chaleur humide. Bon, les plantes évapotranspirent, et donc tout à l'heure j'ai rappelé à quel point la canopée était importante, mais on est probablement pas très loin des limites possibles du système. Donc, et au tropique, l'augmentation de la température moyenne, c'est à peu près ce qu'on constate au tropique, hein. Quand on va monter en latitude, on peut même augmenter aux très hautes latitudes un facteur 3, même voire peut-être un peu plus. En revanche, au contraire, c'est moins sur les 65% de la surface de la Terre couverte par les océans. On a un réchauffement qui est moindre.
Sophie Swatton, avant de vous donner plus longuement la parole, est-ce que vous avez une réaction à ce que vient de dire Dominique? C'est Dominique Dubourg, c'est des choses que vous connaissez, j'imagine, mais est-ce que c'est un aspect des choses qui concerne directement toutes les espèces vivantes, quasiment, qui vous préoccupe?
Ouais, complètement. Puis notamment le stress hydrique chez les plantes, c'est-à-dire que ça nous affecte directement en termes d'alimentation. Une plante stressée, elle va couper sa production, ouais, tout simplement aussi. Elle va essayer de puiser plus dans les ressources plus durablement pour penser à elle, à sa propre survie. Voilà, on a aussi un lien direct, biodiversité. Ces limites, comme Dominique l'explique, sont complètement liées. En revanche, les ravageurs aiment beaucoup aussi ce genre de chaleur. Donc ça veut dire déjà moins de production par les plantes, mais également plus d'insectes ravageurs qui vont également manger les récoltes. Donc, pas besoin d'être extrêmement devin pour voir que ça s'annonce moyennement et qu'en bout de chaîne, nous sommes là.
Deuxième leçon, professeur Bourg, une leçon que vous qualifiez de qualitative. Oui. C'est un chapitre de votre livre, donc « Leçon des limites planétaires », dans lequel vous parlez assez longuement des polymères dont vous dites qu'ils ne sont pas naturels. C'est une phrase qui m'a un peu fait tiquer parce que les polymères ne violent pas les lois de la chimie.
Non, justement.
Ils s'appuient sur elles.
Par définition, évidemment. Mais ce que je veux dire par non naturel, c'est que la nature elle-même ne sait que les fragmenter. Elle ne sait pas les ramener à l'échelle atomique. Donc en fait, ils vont s'accumuler. Ils vont s'accumuler dans nos corps. Par exemple, il y a une analyse récente qui a été faite sur le placenta. Et on s'est aperçu que le placenta devrait s'appeler plasticinta. Il comporte beaucoup de polymères, donc quand le bébé arrive, il est emballé déjà, si j'ose dire. C'est pas tout à fait génial. Et donc oui, après là, moi je me suis appuyé sur la philosophie du vivant d'un de mes amis qui s'appelle Nicolas Boulot, qui lui est un mathématicien et un probabiliste, et où justement, il compare la. Enfin, on peut prendre ce chiffre. Si je fais une erreur, alors je pense que vous allez me rectifier très vite. Mais bon, si on prend le nombre d'atomes dans la partie visible de l'univers, on est à 10 puissance 80. Si on essaie d'imaginer, alors c'est très compliqué, mais enfin, lui fait une forme de calcul qui est intéressante, et son calcul, si on regarde, puisque le vivant est sur base combinatoire, si on regarde l'ensemble des combinaisons possibles, avec les bases biochimiques du vivant, on serait à 10 puissance 1 350 000. Donc en fait, l'idée qui est développée là, c'est que finalement, et c'est une façon de vous répondre, c'est que la nature elle-même, et l'a recommencé 5 fois avec les 5 grandes extinctions, elle a tracé une sorte de parcours, mais le parcours qu'elle a tracé n'explore qu'une infime partie des combinaisons possibles. Or, il semblerait que nous ajoutions des combinaisons différentes et par rapport auxquelles la nature reste quoi.
Mais est-ce que c'est le sens qu'il faut donner à la phrase que vous citez, page 67 de votre livre, Dominique Bourg? Vous dites « Nos savoirs et nos techniques ne sont pas ceux de la nature ». C'est ça que vous voulez dire?
Alors, il y a sans doute un... Alors, je reprends toujours la philosophie de cet ami. Il y a sans doute un modus operandi. Et le propre de la nature, c'est précisément d'effacer ses traces. Et en fait, nous, lorsqu'on met une, quand on diffuse une molécule dans le milieu, il nous faut parfois des décennies pour voir quel sera son effet. Je ne pense pas du tout qu'il en aille ainsi pour la nature. Et donc, même si effectivement l'évolution va faire des sélections, elle ne produit pas n'importe quoi. Et il semblerait pas que l'on parvienne à connaître son véritable modus opératoire.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un ingénieur qui fabrique des instruments, des machines, des substances...
Il s'appuie sur les lois de la nature, par définition.
Oui, c'est une sorte de médiateur entre les lois universelles qui sont les lois, entre guillemets, de la nature. Il fabrique grâce à des objets qu'on peut qualifier de naturels parce qu'ils obéissent aux lois de la nature, et artificiels parce qu'ils n'existent pas dans la nature.
Dans la nature, oui, mais on pourrait, pour faire comprendre ça, on pourrait partir des modèles. Les modèles, évidemment, on parlait tout à l'heure de la loi de Clausius-Clapeyron, on pourrait parler des équations d'Navier-Stokes, que sais-je. Moi, voilà, le physicien qui va faire son modèle, il va s'appuyer sur un certain nombre de lois de la nature, mais il va choisir certains paramètres, il va les doser de façon différente, ce qui fait que on a une famille de modèles et les différents modèles ne nous disent pas exactement la même chose. Si je prends par exemple, je vais donner un exemple assez clair, j'ai eu ça l'autre jour sous les yeux, avec les différents modèles qui étaient disponibles à l'époque, quelles étaient la date que ces différents modèles nous donnaient pour le moment où la température serait en moyenne en France supérieure de 2 degrés par rapport à la période de référence 1850-1900. Et là, ça variait entre 2020 et 2040, quelque chose, 45 ou 47, je ne sais plus de mémoire. Donc, et qu'est-ce qu'on va considérer comme plus probable? C'est là où les modèles se croisent et où les valeurs se rapprochent. Et donc, à partir du moment où on monte un petit peu en complexité, on va aller au-delà de l'échelon des lois de la nature elle-même et d'une certaine manière... on est dans quelque chose. Alors c'est différent puisque un modèle, c'est une science interprétative. La chimie et le vivant, c'est de la combinatoire. Mais on a quelque chose d'assez analogue, c'est-à-dire qu'on a un niveau de structuration où nous autres, notre connaissance fait une connaissance interprétative, c'est-à-dire que on peut prendre un autre exemple qui est celui des modèles pour mesurer les crues. Je crois qu'il y a une famille qui est sur le débit, une autre famille sur la hauteur. Et à l'avance, on ne saura jamais laquelle des deux va nous donner la valeur la plus proche d'une crue annoncée. Donc, quand on est dans l'ordre des modèles, on voit arriver des... Là, je prends vraiment toutes les théories de Boulot qui m'ont beaucoup inspiré là-dessus. On est parfois sur des co-vérités. C'est-à-dire qu'on a une pluralité de valeurs qu'on n'aura pas en physique avec les lois.
L'avant-dernière leçon que vous tirez de ces franchissements de limites planétaires, Dominique Bourg, c'est une leçon que vous qualifiez de normative.
Oui.
Est-ce qu'il faut vivre de la nature ou est-ce qu'il faut vivre dans la nature?
Eh bien, c'est-à-dire
sachant qu'on fait les deux quand même.
Mais on est obligé de faire les deux. Simplement, en fait, il y a 4 types de relations, hein. Et l'IPBS les a bien mises en valeur.
L'IPBS, c'est...
Non, alors c'est l'équivalent pour, c'est International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, voilà. C'est l'équivalent pour la biodiversité de l'IPCC, du GIEC pour le climat. Et donc eux, ils ont été créés pas en 88 comme le GIEC, mais en 2012. Et eux, ils disent, voilà, il y a 4 types fondamentaux de relations que toute société entretient avec la nature. On va évidemment tirer des ressources de la nature, sans quoi on vit pas. On vit dans un milieu, alors on vit de la nature, on vit dans la nature. On vit en présence avec d'autres êtres naturels, des animaux, etc. Donc on vit avec. Et alors ça, c'est très dur pour le physicien Étienne. On peut aussi vivre en tant que nature. C'est-à-dire s'imaginer qu'on appartient à un tout qui nous dépasse et qui nous oblige. Là, il faut repenser à la conversation avec l'Indien, le Kayapo. Là, c'est assez intéressant. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait la modernité? La modernité, nous sommes tous les deux coupables. Hein. C'est quand même une, il faudrait rajouter la théologie, c'est quand même une conjonction et la naissance de la science moderne et de la métaphysique, avec Descartes, celui qui va l'exprimer le plus, et de la théologie. Parce que si on est devenu mécaniciste, et aussi parce qu'on a pensé qu'il y avait un Dieu tel qu'il absorbait toute la substance du monde et ne restait au dehors de nous, en dehors des êtres humains, que des cailloux.
Que Galilée, Descartes, et puis vous ajoutez Dieu, ont fait qu'on a considéré que nous étions des êtres d'antinature.
Oui.
Non pas au sens où on serait contre la nature, mais on pourrait la transcender, échapper à ses lois, finalement.
Ben, on échappe à ses lois, pas forcément, mais on en serait extérieur.
On est rattrapé.
Oui, mais surtout que nous développer, nous réaliser, ne pourrait se faire qu'en détruisant la nature et le capital naturel. Et ça, c'est vraiment la modernité.
Ce qui vous amène à une leçon que vous qualifiez de spirituelle.
Après, mais déjà, on va rester sur le normatif. Donc, l'idée du normatif, c'est en quelque sorte d'enrouler les droits de la nature autour de ces quatre types de relations possibles. Si je prends, par exemple, le droit forestier aujourd'hui, il est calé sur les activités économiques et il vise à les maintenir. Et quand on veut ne pas totalement détruire la forêt, c'est tout simplement pour maintenir nos activités économiques. Si au contraire, je regarde du côté de droit de la nature, qu'est-ce que serait qu'un droit de la nature forestière? Une forêt, pour qu'elle soit forêt, il faut qu'elle soit minimum de surface de 50 000 hectares. Il faut qu'il y ait une lisière. Avec les mêmes essences, il faut qu'évidemment un cours d'eau, il faut qu'il y ait une vie des sols, une vie dans la forêt, une vie aérienne, et il faut qu'il y ait des connexions avec d'autres systèmes. Donc les droits de la nature, ça serait de chercher à respecter ça. Or aujourd'hui, ce qu'on appelle forêt, c'est très souvent une collection d'arbres de même essence, du même âge, puisqu'on les coupe tout en même temps. Bon, je veux dire, c'est pas une forêt, ça n'a rien à voir avec la vie. Bon, et donc, alors c'est l'idée, d'ailleurs, que soutient l'IPBES, hein, de revenir à des régulations dans nos relations à la nature, mais que ces droits viendraient exprimer.
Michel Serres avait tenté cela avec son contrat naturel.
Oui, mais Michel Serres, c'est un très grand. Et effectivement, alors, c'était beaucoup plus global, hein, et puis il reprenait la forme du contrat, qui n'est pas forcément évidente. Nous, dans les peuples premiers, il n'y a pas question de contrat. Mais en revanche, eux observent vraiment, je peux donner un exemple que je vais aller chercher chez les Hakka, donc un peuple de la forêt primaire congolaise, un pygmée entre guillemets. Jamais, par exemple, un Hakka ne va faire manger à l'eau, parce que dans tous les peuples, on ne mange pas la viande qu'on a chassée soi-même, parce que c'est le cousin d'un tel qu'on a tué, etc. Et on n'a pas envie qu'il tue notre cousin ou notre épouse, nos enfants, etc. Donc on l'a fait manger à d'autres. Mais un Hakka ne va jamais se saisir d'une viande morte, fût-elle fraîchement morte. Il ne va jamais faire consommer un animal dont il n'aura pas observé le comportement. En observant son comportement avant de le chasser, il sait qu'il est sain et donc là, il peut le faire manger. Ensuite, les Hakka allaient savoir comment. On s'est aperçu de ça, c'est-à-dire que la partie dans la forêt congolaise qu'ils réputaient sacrée, au sens vraiment latin du terme, sacer, ce qui est séparé, eh bien, c'était la partie refuge d'Ebola. Et voilà les deux raisons pour lesquelles...
Du virus
Ebola. Voilà les deux raisons pour lesquelles les Hakka n'ont jamais contracté le virus Ebola, alors qu'ils vivent dans cette forêt-là depuis des milliers d'années. Donc, alors évidemment, on va pas se transformer en pygmée, hein, je demande ça à personne, mais il faut qu'on réinvestisse, déjà moi c'est un peu râpé, mais il faut qu'on réinvestisse ça par nos connaissances, justement. C'est nos connaissances qui peuvent nous permettre de reconstruire des relations plus fines avec la nature.
Est-ce que c'est ça que vous appelez votre leçon spirituelle?
Non, ça c'est la leçon normative.
Oh, je me perds.
La leçon spirituelle, c'est la dernière.
Alors, allons-y.
Alors, voilà, mais je vais très vite. C'est quoi la spiritualité? Il n'y a pas de société au sein de laquelle on ne donne pas un mode dominant de réalisation de soi. J'aime toujours donner cet exemple un peu cucu, mais si on regarde du côté de l'Iliade, de l'Iliade d'Homère, la spiritualité d'Achille, c'est assez sommaire, hein, c'est casser la gueule à Hector sous les murs de Troie. Si on va du côté d'Aristote, c'est plus sympa. Se développer, c'est développer ce qui est proprement humain, c'était la raison spéculative par les sciences et la philosophie, la raison pratique par la participation à la vie de la cité, alors aujourd'hui ça va devenir dur, hein, et puis mettre en forme sa sensibilité par les arts, c'est génial. C'est l'éveil chez les bouddhistes, dans les religions du livre, c'est le salut, etc. Et nous, c'est quoi? C'est le consumérisme. C'est la phrase de Ségala. Tu n'es pas un homme si tu n'as pas ta Rolex à 50 ans. C'est-à-dire que je m'réalise par la possession d'un statut que je vais traduire par la possession d'objets. Là, c'est la croissance. Et là, on n'y arrivera pas. Donc, si on ne change pas ça, mais ça ne se fait pas comme ça, si on ne change pas ça, on n'arrivera jamais à revivre autrement.
Alors, j'ai une remarque avant de donner la parole à Sophie Swatton. C'est que dans la langue française et dans beaucoup d'autres langues, le sujet du verbe changer, c'est ce qui change pas quand on dit qu'il change.
Hein, si je dis, oui, tout à fait, c'est lui pour Kaïmenon.
Si vous avez changé, la fin du changement, c'est toujours vous.
Bah, bien sûr.
On avait été remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, ce qui a changé, c'est non pas vous, mais quelque chose de vous.
De vous.
Donc, quand vous dites qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer pour conserver ce qui va être conservé? Ou ce qui doit être conservé? Question pour vous, Sophie Swatton. Et Dominique, votre professeur, pourra ensuite vous mettre une note.
Oh non, jamais.
Alors, en écologie, oui. En philosophie, je pense pas.
Pas du tout.
Et en anthropologie, je pense que je vais te noter avec des exercices pratiques.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut changer, d'après vous? Parce que la partie, disons, spirituelle dans votre ouvrage, Sophie Swatton, est plus développée que chez Dominique Bourg.
Parce qu'elle est incarnée. En fait, c'est pas un savoir livresque, c'est un savoir malgré moi que je subis et sur lequel je vais enquêter. Donc j'ai envie de dire, je prends les choses à l'envers, encore malgré moi, pour essayer de comprendre et d'enquêter avec curiosité sur ce que je prends pour une maladie. Et dans curiosité et dans curare, c'est la même racine, c'est le soin. Donc je vais retomber malgré moi sur une écologie du soin pour comprendre, et si en me soignant, c'est un peu mon hypothèse de départ, et si les peuples autochtones disaient vrai, donc, et si en fait en soignant ce que je prends pour un symptôme, j'arrivais peut-être à retrouver cette démonstration, on va dire, mais un peu à l'envers, en subissant d'abord des symptômes physiques pour monter petit à petit, en remontant jusqu'à une philosophie pionnière, qui est une philosophie incarnée, au sens socratique, d'une pratique, d'une praxis aussi, et de pouvoir éprouver ce changement, en fait, par soi-même, par un eureka, mais un eureka que j'appelle un eureka cathartique, émotionnel. Donc pas juste de le penser là, de se dire tiens j'ai trouvé, mais de pouvoir remonter encore plus loin pour le ressentir, pour ensuite enclencher un mouvement. Donc c'est très neuroscientifique tout ça.
Ouais. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais que vous nous expliquiez, vous qui avez été, je sais pas si je dois dire les choses ainsi, mais une théoricienne du revenu de la transition écologique.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, c'est une réaction épidermique et avec un énorme effort pragmatique de concrétiser une forme d'action. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture, par exemple, de se demander très concrètement qu'est-ce qu'il faudrait pour acter ce changement, de quoi les gens ont besoin. Et donc, dans l'état de la planète, des limites planétaires telles que l'explique parfaitement Dominique Bourg, c'était de dire, ok, il y a quand même des choses qui vont bien. Donc, quelles sont dans toutes les industries, dans la manière de faire, dans tout un champ de l'économie dématérialisée, en fait, qui remet en question la valeur individuelle, la valeur production et le principe économique d'une émancipation de l'économie par rapport à cette nature. Il s'agit de réencastrer au sens polanien. Donc, la question se pose, quelle serait une forme d'économie écologique ou une économie respectueuse de ces limites planétaires, dans laquelle des personnes concrètes dans différents champs exercent déjà, ont des métiers déjà actifs dans le bâtiment, dans le transport, dans la mobilité, dans les ressources, font déjà le travail, notamment en agroécologie, notamment en biosourcé, donc on peut donner énormément d'exemples. Et quelles sont ces personnes qui font, de quoi elles auraient besoin pour changer d'échelle, pour que ça ne soit pas que des niches, comme on le voit encore dans certains secteurs, et pour pouvoir ou amplifier, ou au contraire, pour inciter d'autres. On le voit aussi chez les jeunes architectes, dans les écoles de commerce, ça rend sympa de manger des légumes de saison. Qu'est-ce qu'il faudrait?
Et que vient faire le terme revenu dans cette expression?
Alors revenu, c'est parce que j'avais travaillé auparavant, avant dans ma thèse, sur le revenu de base inconditionnel. Donc le revenu, c'est cette idée en fait d'avoir trois composantes. Un revenu, les gens ont besoin concrètement de manger, ont besoin aussi de se mettre un projet, d'avoir du temps pour penser une transition. Parler de changement, comment j'acte ça? Donc on a besoin d'argent, donc concrètement un revenu. C'était le terme le plus simple, peut-être pas le plus adéquat, mais le plus simple. Donc un revenu complémentaire ou sous forme de salaire, mais en tout cas une source monétaire. Deuxièmement, c'est de se dire on a besoin aussi d'un accompagnement, une formation qui va avec. Parce que si on s'est changé mais qu'on n'a pas le mode d'emploi, qu'on vous enseigne que de la microéconomie ou des Black Friday ou la fonction de production où il y a uniquement le capital et le travail et qu'il n'y a absolument pas la technologie ou l'environnement lié en technique, ça va être compliqué. Donc une formation adaptée pour savoir comment on change, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Et la troisième composante du revenu de transition écologique, qui est en fait un dispositif, c'est le côté mutualiste, solidaire, qui revient en fait aux origines du solidarisme. prisme de cette économie pour mettre ensemble les gens. Il ne s'agit pas de faire de la guitare tout seul ou d'avoir une société libre dans toutes ces questions qu'il y avait hein, à l'époque, Gorz, etc., sur revenu de base inconditionnel, mais de le lier aussi à des personnes de manière complémentaire pour recréer un écosystème vertueux sur un territoire donné. Donc on commence petit, small is beautiful, mais d'agréger différentes initiatives sur un territoire donné pour ensuite monter en puissance et permettre à des gens en fait, d'amplifier leurs initiatives.
Et est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez des exemples qui montrent que ce type d'initiative collective fonctionne bien ?
Alors, j'ai créé en 2017 une fondation en Suisse et puis une association ensuite deux ans plus tard en France qui s'appelle ZOEIN, Z-O-I-N, qui veut dire vivre en grec.
Z-O-E-I-N. C'est un acronyme.
Non, ZOEIN.
Non, c'est ZOEIN qui veut dire être Zoé la vie. Donc ça vient de vivre parce que j'en ai besoin pour survivre à ma formation intensive et violente et brusque en immersion dans les limites planétaires qui s'aggravaient chaque année en reprenant la charge de cours de public.
Ah, c'est un antidépresseur.
Mais complètement. C'est d'un égoïsme, la création de cette fondation dingue. C'était vraiment pour tenir et pour pouvoir aussi incarner.
Donc, si on veut que les choses changent vraiment, il faut que Dominique Bourg aille enseigner Urbi et Torbi.
Complètement. Il a fait, c'était fabuleux. Il a enseigné, mais il enseignait aussi des pistes pour sortir de l'ornière. C'est ça. C'est-à-dire de pas simplement alerter. Et c'est ça dont on a besoin. Et ensuite, le voir mis en œuvre. Donc, il y a maintenant 7 territoires en France qui expérimentent le revenu de transition écologique. Dont Tilt. Enfin, on trouve tout sur le site internet avec énormément de choses et d'exemples. Et on trouve des territoires, des soutiens avec les régions. Donc, dans le nord de la France, un peu dans tous les points cardinaux. Aujourd'hui, c'est une centaine, on va dire, d'emplois, 100, 200, ce qui n'est pas assez suffisant. Mais en tout cas, on a maintenant un référentiel, une manière aussi de travailler avec la chaire ESS, avec différents territoires, avec différentes fondations, avec des instituts, des chercheurs, des praticiens. Donc de renouer un petit peu avec cette société civile et cette recherche-action, j'ai envie de dire recherche-création maintenant, de personnes qui font autrement. Donc, ce n'est pas forcément ce dont on entend le plus parler, mais en tout cas, ça existe. C'est mis en rivière, avec différents affluents qui, peut-être, de petits fleuves deviendront grands.
Prenons un exemple, si vous voulez bien, puisque vous parlez de, et Dominique Nebourg l'a déjà évoqué, des relations que nous avons ou que nous devrions avoir avec le monde non humain, c'est-à-dire avec les animaux, avec les plantes. Vous êtes plus investi que Dominique, je crois, sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme piste d'évolution ?
Alors, c'est une très bonne question. J'ai subi, là encore une fois, je pense que le mot de crise marche bien. J'ai besoin d'être en immersion totale. Donc, peu après avoir eu cette formation, j'ai une forme de rencontre aussi avec...
Vous racontez ça dans un livre qui s'appelle « L'œil du jaguar ».
Voilà, tout à fait. Un petit peu avec la rencontre de peuples autochtones de manière tout à fait sensée à l'université, dans les rencontres et les dialogues entre scientifiques de notre monde et celui de
peuples autochtones. Vous n'êtes pas allés chez eux, c'est eux qui sont venus chez vous.
Mais pas du tout, qui sont venus à l'université de Lausanne, donc de manière très rationnelle, très, très encadrée. J'ai eu une expérience un petit peu atypique de... un peu traumatique, on va dire, mais sur laquelle je me suis posé la question de savoir si j'étais complètement folle, ce qui était ma première option, tout à fait acceptable. Et en fait, du fait que je me pose la question, les psychiatres me disent que je ne le suis pas, qu'en principe, les fous pensent qu'ils ne le sont pas. Donc, le fait de me croire de manière obsessionnelle folle montre que...
Tous les psychiatres sont d'accord sur vous.
Écoutez, ceux que j'ai rencontrés, oui. Alors peut-être qu'ils sont plus fous que moi. En tout cas, leur démarche, et puis les thérapies, ça, la névrose, indéniablement, mais la schizophrénie, non, pas. Puis je suis trop âgée pour que ça m'arrive, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça me rassure.
Et si c'était folie, ça serait de la psychose, puisque là, c'est vraiment le rapport au réel.
C'est le rapport
qui
au réel.
Changé,
tout à fait. C'est le rapport au réel, c'est-à-dire de voir des choses que les autres ne voient pas, des choses qui sont pas très rassurantes en soi, d'entendre ou de sentir. Donc,
est-ce que vous voyez des choses dans ce studio là que je ne verrai pas?
Alors,
moi,
je ne vous en parlerai pas. Peut-être en antenne. Non, mais je dirais, en fait, c'est un petit peu, quelque chose d'extrêmement troublant chez nous, mais qui, dans d'autres cultures, sont utilisés, sont très banalisés, très très banalisés, mais dont on n'a pas forcément le référentiel. Donc c'est comme les maths, c'est une forme de langage dont on a oublié le code et l'usage, et qu'il va falloir apprendre par les sens à rethéoriser. Voilà. Donc en fait, d'abord on le perçoit, on comprend après. Donc on a d'abord les symptômes, on a le résultat, On ne sait pas d'où ça vient, il faut reconstituer l'énoncé. Donc c'est
remonté. Dans cette expérience dont vous dites vous-même qu'elle a été traumatique, est-ce qu'elle a changé vos relations avec les animaux, domestiques ou pas d'ailleurs?
Complètement, c'est-à-dire qu'après cette expérience de voir déjà un œil de jaguar dans l'œil d'un cassinque brésilien en face de vous, en sentant des vibrations et en sentant des choses, j'étais un peu, je lui demandais si c'était normal. Donc ma première réaction c'est 1, je suis folle, 2, est-ce que tu m'as droguée? Il me dit non, je lui dis... Tu me rappelles la constance des insectes. Je l'ai revu, mais j'en ai revu beaucoup d'autres.
Et est-ce qu'à chaque fois que vous le revoyez, il y a un œil de jaguar qui réapparaît à chaque fois?
Alors, il y a pire. Après, il y a l'œil de jaguar, il y a la forme. Après, c'est deux. Comment vous dire? C'est d'avoir comme des hologrammes, d'avoir l'impression, un peu comme si vous avez des animaux ou un chien, cette impression du sixième sens. On se dit que les animaux sont hyper. Voilà. Cette impression d'avoir une forme de petits sens en plus, d'une hypersensibilité que tout le monde a en termes d'intuition, de perception, de vous dire tiens, je pense à quelqu'un et en fait j'y pense, il me téléphone. Alors on ne sait pas comment ça se met en place, mais pour certains peuples autochtones, cette relation vivant aux animaux, cette perception, on pourrait dire, du non-verbal, s'explique et même plus que ça, doit se cultiver pour justement nous permettre de ressentir cette interdépendance qu'on a oubliée, faisant de nous une surespèce, une espèce qui s'est extraite depuis le mécanicisme, depuis une certaine interprétation de Descartes, de sortir en fait de notre condition d'être humain. Et en repassant par cette praxis, par cette pratique, en redéveloppant cette sensibilité, c'est une manière aussi de nous reconnecter aux autres êtres vivants, mais aussi au monde minéral, au monde végétal, et de ressentir en fait une forme d'interdépendance. Ce qui fait que quand vous sentez, alors je vais vous le dire un exemple très concret, vous sentez qu'un citron pourrait émettre, voilà, vous dire tiens, c'est un citron, de ressentir une forme de gratitude, comme on pouvait l'avoir avant, même dans certaines religions, de remercier, de célébrer, merci pour le repas ou merci pour, voilà, pour la terre, d'être en fait en humilité, l'humus, la terre, et d'être en gratitude avec ce que la terre nous offre généreusement et de manière spontanée, nous permet de nous remettre psychologiquement et en forme d'état d'esprit, de disposition au sens aristotélicien, dans une forme de relation de non-domination. On n'est pas dans du nin-white, on est dans une forme, encore une fois, polanienne, de cercle, parce que les peuples autochtones aiment beaucoup le cercle, qui va nous permettre, en fait, de repenser non seulement notre relation aux animaux, mais au monde végétal, et puis également de gouvernance. Et là, ça devient intéressant, notre manière de faire. Voilà.
Oui, c'est ce que est en train de dire Sophie, c'est ce que précisément l'IPBS appelle « vivre as nature », en tant que nature. C'est effectivement ce côté-là où la nature est globale et où elle communique quelque chose. On peut faire le lien avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure des haquins, et d'ailleurs on fait un papier tous les deux ensemble là-dessus. On a plein d'exemples, là pour le coup, de savoir très précis dont le mode d'acquisition nous échappe complètement.
J'ai perçu il y a quelques années Philippe Descola pour son livre « Par-delà nature et culture », et il disait ceci, je le cite... À part la société occidentale, aucune autre société humaine ne cohabite avec le monde non humain sur le mode de la séparation. Il n'y a pas la nature d'un côté, une nature qui serait close sur elle-même, et de l'autre, l'humanité, qui serait une entité à part, installée avec sa culture à l'intérieur de la nature, le plus souvent dans une position de surplomb. En d'autres termes, partout ailleurs qu'au sein de l'Occident moderne, les frontières de l'humanité ne s'arrêtent pas aux portes de l'espèce humaine. S'y trouve également inclus l'ensemble des corps associés, ces entités que nous considérons, nous, comme subalternes et que nous reléguons pour cette raison dans une simple fonction d'entourage.
Est-ce que Sophie expérimente directement?
C'est exactement ça. Et donc c'est cette manière d'essayer de comprendre aussi et du coup d'apprendre, parce que pour moi je ne le savais pas, donc je vais enquêter pendant 4 ans pour essayer de retrouver une tradition initiatique, philosophique, socratique, et de sortir de ma propre caverne que j'attribue avec un parallèle cerveau et ma propre illusion, pour essayer également de reconstituer une forme d'apprentissage de savoir qui dans d'autres cultures est extrêmement banalisée. Donc c'est une forme de retour initiatique à une philosophie ancestrale, en fait, tout simplement. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas...
Parce qu'on entend parfois des voix disant qu'il faudrait limiter la science, même la liquider, au motif d'un mauvais usage du monde. C'est-à-dire que la science nous aurait permis, par les moyens artificielle qu'elle nous donne, de mal nous comporter avec la nature. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là?
Non, surtout pas. C'est-à-dire que, alors déjà, la science, ça ne veut rien dire parce que c'est une évolution dans l'histoire. Alors déjà, les sciences, oui, puis une évolution dans l'histoire. Alors, ces sciences issues de la révolution mécaniciste, c'est celles qui aujourd'hui nous permettent de comprendre que le vivant, ça représente le monde, qu'il y a une forme d'intelligence animale, qu'il y a une forme d'intelligence végétale. Alors, pas évidemment.
Enfin, en physique, on est sorti du mécanicisme.
Depuis longtemps.
Newtonien ou galiléen.
Ben voilà. Et pareil. Et donc, et par par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la forêt, c'est vraiment une connaissance scientifique. Donc on retrouve aujourd'hui, au contraire, le lien entre le savoir et le sens. Moi, vous devez vous souvenir de ce passage-là de Against Method, là, de Paul Feyerabend, quand il racontait que, eh bien, les mythes savent à la fois nous expliquer ce qui se passe dans le monde autour de nous, tout en donnant une orientation à nos actions. Et en y opposant la science moderne qui renvoie au fait seul et ne nous donne aucun orient. C'est faux. Quand on lit le référentiel des limites planétaires, on peut pas ne pas le comprendre comme une incitation à l'action. Alors après, il faut redéfinir cette action. Si je suis biologiste et que je connais l'état de la biodiversité, le rythme auquel les populations d'arthropodes s'effondrent, et que je pense qu'il n'y a rien à faire, alors pour le coup, là, je suis schizophrène. Donc, en fait, on est sorti de ça. Il y a un maillage beaucoup plus fin entre nos connaissances, nos manières d'agir, l'orientation de nos actions. On est au début d'une espèce de bascule de civilisation. Et dans cette bascule de civilisation, et je pense que on est d'accord tous les deux avec Sophie, nos connaissances ont un rôle extrêmement important à jouer. Et nos connaissances, elles sont dynamiques, elles sont évolutives, elles ne sont pas statiques.
Oui, mais en même temps, à vous entendre, vous êtes évidemment, et ça se comprend parfaitement, partisan d'une forme de retour à une forme d'harmonie, disons, entre les savoirs ancestraux, oui, les connaissances scientifiques, avec la nature au sens le plus large du terme. Et en même temps, on a l'impression, je ne sais pas si ça se mesure, mais que le monde, au contraire, est de plus en plus violent.
Alors, il est dans le sens inverse, totalement, aujourd'hui.
Les guerres n'ont pas l'air de vouloir décroître en intensité et en nombre. Et donc, comment est-ce que vous associez ces deux choses? Est-ce qu'il n'y a pas un démenti du réel?
Non, il n'y a pas un démenti du réel. Il y a un double mouvement. On voit des choses dans la société. Bon, par exemple, ce que dit Descola, ou ce que fait la philosophie, et puis la phénoménologie, justement, c'est aller à l'encontre de ce dualisme moderne dont Descartes a formulé l'essence de la façon, on pourrait presque dire, la plus parfaite. Et il y a tout un tas de mouvements dans la société. Sophie parlait de son revenu de transition écologique, mais le développement de l'agroécologie, la redécouverte de l'agroécologie, il y a dans les interstices de nos sociétés, il y a plein de choses différentes qui sont en train de se passer. Moi, je dirais que en surface, on est sur un moment de raidissement, un moment, au sens propre du terme, réactionnaire. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, d'ailleurs, va tout à fait clairement dans ce sens-là. Et où on est dans une espèce de fuite en avant, d'artificialisation totale. C'est le fait à la Musk de dire qu'on va aller sur Mars, que sais-je. Et donc, on a à la fois ça d'un côté, et en même temps, il y a un courant qui va tout à fait dans le sens inverse, et parfois institutionnellement. En fait, ce qui est dit dans les leçons planétaires, c'est la seule chose, la seule manière de nous en tirer, c'est d'exercer le protocole de Kunming-Montréal. C'est la COP biodiversité 15. C'est qu'il faudrait que 30% des surfaces végétalisables soit redonné d'une certaine manière à la nature, avec 10%, par exemple pour les forêts, en libre évolution. Donc en fait, notre monde, il est paradoxal. C'est-à-dire, il a des couches différentes, et les médias nous attirent notre attention que sur le côté le plus réactionnaire, le plus violent. Mais la société, par en dessous, elle évolue extrêmement profondément. Si je vois la question des droits de la nature, c'est un mouvement quasi universel. Ça a mis du temps, hein. Les premières expressions, c'est dans les années 70, et ça se diffuse partout. Et l'idée même est une idée aujourd'hui qui est vraiment extrêmement acclimatée. Donc oui, on est dans ce paradoxe. Alors maintenant, je ne suis pas Madame Soleil. Peut-être que la destructivité va l'emporter et ce qui, plus en dessous, est en train de changer, n'aura pas le temps de se développer. Je ne sais pas. Je ne suis, encore une fois, je ne lis pas l'avenir. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a bien un double mouvement. Il y a un mouvement de surface extrêmement violent et réactionnaire. Il y a un mouvement de bascule beaucoup plus profond.
Mais vous avez écrit un livre avec Jean-Vincent Olyndre. C'est une discussion autour de guerre et climat.
Oui.
Et quand on le lit, ce que j'ai fait,
oui,
on n'est pas du tout optimiste. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le climat va agir comme un facteur de conflictualité supplémentaire.
Alors, c'est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, se battre à 50 degrés, ça devient difficile. Se battre...
Ah, vous voulez dire, il fera tellement chaud qu'on aura autre chose à faire.
C'est ce qu'on dit dans le livre, hein. C'est-à-dire que, dans un premier temps, justement, c'est un facteur d'aggravation, d'intensification de certains facteurs de conflit, mais qu'en fait, ça va limiter aussi la conflictualité possible.
Sophie Swatton, vous avez le mot de la fin.
Le mot de la fin? Je le donnerai à Malraux. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas.
C'est une belle conclusion. Je vous remercie d'être venu de Lausanne pour participer à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de Leçons des limites planétaires de Dominique Bourg, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Et puis vous, Sophie Swatton, votre livre L'œil du jaguar, avec comme sous-titre Voyage philosophique au cœur de la conscience, qui est un vaste programme. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation et à la mise en onde, Souad Boukorsa.